C'est une histoire de domestiques injuriant leur maître, tandis que la maison est sur le point de s'écrouler sur eux. Extrait des mémoires de Filippo Amfuso, ambassadeur italien à Budapest en 1943.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lorsque, au soir du 25 juillet 1943, on annonce à la radio la démission de Benito Mussolini, de très nombreux Italiens sortent dans les rues parce qu'ils sont indéniablement heureux de la chute du régime qui, pour eux, et évidemment c'est une triste illusion, marque sans doute la fin de la guerre. Effectivement, cet été 1943, l'Italie fasciste n'a plus le minimum de consensus qui permet à un régime de tenir. Les privations, l'impopularité de l'alliance allemande et surtout les déboires militaires ont fait que le régime n'a pas survécu à son choix d'entrer dans le conflit mondial le 10 juin 1940. Or, comme je le signalais, il y a effectivement une illusion parce que en cet été 1943, si beaucoup d'Italiens espèrent la fin de la guerre, en fait, elle ne fait que commencer sur le sol de la péninsule. Parce que Adolf Hitler ne croit absolument pas à la volonté italienne de continuer la guerre, même si le nouveau gouvernement, dirigé par le maréchal Badoglio, affirme qu'il restera fidèle à l'alliance avec l'Allemagne nazie. C'est pour cela que, sous couvert de cette alliance, auquel il ne croit plus, Hitler envoie une quinzaine de divisions dans la péninsule qui est déjà occupée en ce mois d'août. Quant au gouvernement, eh bien, il joue ce double jeu qui consiste à affirmer le maintien de l'alliance allemande et à envoyer à Lisbonne une délégation afin de négocier avec les alliés un armistice. Celui-ci est signé le 3 septembre 1943 et annoncé le 8. Or, il est prévu que, au moment de l'annonce, les troupes alliées débarqueraient dans le sud de la péninsule. À vrai dire, il y a un temps de latence entre l'annonce de l'armistice et le débarquement des alliés, et ces quelques heures sont mises à profit par les Allemands pour occuper les centres stratégiques de la péninsule jusqu'à Naples. S'ouvre alors une période particulièrement rude, particulièrement sombre, sans doute la plus sombre, depuis la proclamation de l'unité de l'Italie en 1861. Parce qu'effectivement, il va y avoir en fait, sur le territoire italien, des zones de combat, mais aussi des phénomènes multiples. Parce qu'effectivement, les Allemands, pour appuyer leur pouvoir dans les zones qu'ils occupent, vont libérer Mussolini, qui a été interné dans un hôtel du Gran Sasso d'Italia, au sommet des Apennins, et il est libéré le 12 septembre, ramené en Allemagne où il rencontre le Führer, et celui-ci, qui lui garde une certaine amitié, lui explique que l'Italie doit reprendre le combat aux côtés de l'Allemagne, ce qui fait que Mussolini devient véritablement le vassal soumis d'Hitler, parce qu'il est installé sur le lac de Garde, dans la ville de Salò. Et il va créer cette république sociale italienne qui finalement est aux ordres de l'Allemagne et qui est totalement contrôlée par l'Allemagne. D'autre part, il y a le gouvernement royal qui a fui Rome dans des conditions quelque peu rocambolesques le 9 septembre 1943, qui s'est réfugié à Brindisi, alors qui officiellement représente l'Italie aux yeux des alliés, mais ceci contrôle le gouvernement royal. Et il est évident que la co-belligérance qui est proclamée le 13 octobre aux côtés des forces alliées est en fait une co-belligérance extrêmement soumise. Mais le fait nouveau, c'est qu'il y a effectivement deux autres pôles de pouvoir qui apparaissent en Italie. À côté de la République sociale italienne qui s'installe dans le nord du pays, il y a toute une série de maquis, de partisans qui s'organisent dès l'automne 1943, et ceux-ci vont vouloir combattre à la fois l'occupant et également la République sociale italienne. Ce qui fait que l'on peut estimer qu'il y a à la fois sur le sol italien une guerre de libération qui vise à se défaire de l'occupant nazi, mais également une guerre civile entre Italiens, entre fascistes et antifascistes. Alors effectivement, la péninsule italienne est une zone de combat. Les combats entre les Alliés et les Allemands avancent lentement. Le terrain accidenté favorise la défense allemande au travers de la ligne Kesselring, de la ligne ensuite gothique, et elle est marquée par quelques batailles devenues célèbres, comme la bataille du Monte Cassino entre février et mai 1944. Ce n'est que le 4 juin 1944 que les troupes alliées, en particulier la 5e armée du général américain Mark Clark, peut entrer dans la ville éternelle. L'Ombrie, la Toscane sont libérées au cours de l'été 1944, et puis les Alliés s'arrêtent au sud de la plaine du Pô, qui reste encore aux mains des Allemands et de la République fasciste. Le débarquement en Normandie a indéniablement pénalisé le front italien, qui apparaît comme un front secondaire par rapport à la grande opération Overlord qui débute le 6 juin 1944. Mais d'autre part, il y a aussi une population civile qui subit les affres de l'occupation, de la répression. Il y a eu de nombreux oradours sur glane en Italie. Un des plus célèbres est le village de Marzabotto en Émilie-Romagne qui est massacré par un détachement allemand. Il y a près de 700 morts. D'enfants de quelques mois à des vieillards. La répression, effectivement, est sévère dans les zones où les partisans sont actifs et où ils ont des appuis au sein de la population civile. De l'autre côté, il y a également une guerre civile entre partisans et fascistes. En effet, il ne faut pas croire que la République sociale n'ait trouvé aucun partisans au sein de la société italienne. Il y a environ 200 000 personnes qui se sont engagées dans les forces armées de la République sociale, certains allant jusqu'à créer des milices noires qui se sont fait tristement célèbres parce qu'elles ont participé à l'arrestation de juifs et à l'exécution sommaire de civils ou de partisans. Il y a donc bien eu, au-delà de la guerre de libération contre l'occupant allemand, cette guerre civile qui, effectivement, va s'étendre jusqu'à la fin de la guerre, et même sans doute un peu au-delà, car dans les mois qui suivent la fin des combats, eh bien, il y a des règlements de compte qui existent au sein de la société italienne. Et puis, il y a peut-être une troisième guerre. C'est une guerre de classe. En effet, l'historien Claudio Pavone, lui-même ancien partisan, ancien résistant antifasciste, avait théorisé dans un livre publié en 1991, Una guerra civile, le fait que, à côté de la guerre de libération et à côté de la guerre civile, il y avait une guerre qu'avait menée une partie du Parti communiste italien contre les éléments dits bourgeois et qui étaient, à leurs yeux, coupables d'avoir trop longtemps soutenu le régime fasciste. Alors, au moment où commence le printemps 1945, eh bien, l'Italie sait que la guerre est presque finie et il n'y a plus que, je dirais, quelques ultras pour penser qu'il faut continuer à tout prix le combat. Mussolini lui-même, qui est devenu de plus en plus faible aux yeux des Allemands et qui ne représente quasiment plus rien aux yeux des Italiens, va essayer de quitter Milan où il s'était réfugié. Il va essayer de partir vers la route de Côme et vers la frontière suisse. Il va être arrêté par des partisans Dans un premier temps, il n'est pas reconnu, caché dans un uniforme allemand, et puis un deuxième barrage va l'arrêter. Il va être exécuté avec quelques-uns de ses derniers fidèles, quelques hiérarques, et sa maîtresse Claretta Petacci, qui n'avait pas voulu l'abandonner et qui l'avait suivi jusqu'au bout. Alors il y a plusieurs versions de cette mort, certaines sont très antifascistes en disant qu'il a fait preuve de peur et demandant la grâce, d'autres au contraire qui en font une espèce de héros mourant avec celle qu'il aimait. Il est fort probable qu'en fait ce soit beaucoup moins romantique et qu'il ait été abattu sommairement par quelques rafales de mitraillettes. Le corps a été ramené à Milan, Piazza Loreto, là où, le 15 août 1944, 15 partisans avaient été exécutés par les Allemands. Là, nous avons des images qui nous montrent une scène digne de l'enfer de Dante, parce que les corps vont être, non pas dépecés, mais insultés, piétinés par la foule, avec quelques malheureux pompiers qui essayent avec des lances de faire évacuer la foule. Et en fait, si on a suspendu les corps, sur la devanture d'une station-service, c'est pour éviter qu'il soit dépecé. Donc véritablement, en ce mois d'avril 1945, c'est bien la période la plus sombre de l'histoire de l'Italie unitaire qui se clôt.